Bienvenue à Cancer de la prostate sans tabou, un balado produit par Procure dans le but d'aider, de soutenir et d'informer les hommes à risque, les personnes nouvellement diagnostiquées, les survivants et leurs familles. Le cancer de la prostate est le cancer le plus répandu chez l'homme. C'est aussi la troisième cause de mortalité et au Québec seulement, 12 hommes par jour en reçoivent un diagnostic. Pourtant, c'est encore un sujet tabou pour plusieurs. Les balados Procure se veulent des discussions franches et transparentes avec patients, accompagnateurs, médecins, chacun avec leurs histoires personnelles et leurs expériences face à la maladie. Nous espérons que cet outil répondra à des questions que vous n'avez peut-être pas osé poser et surtout vous permettra de voir que vous n'êtes pas seul. Nous vous rappelons que Procure offre un service de soutien téléphonique et en ligne 7 jours sur 7 avec des infirmières spécialisées en uro-oncologie pour répondre à vos questions et vos inquiétudes. Nous sommes là pour vous et vos proches. Contactez-nous.
Bonjour à tous et bienvenue à Cancer de la prostate sans tabou, notre série de balados qui, j'espère, répondra à certaines de vos questions ou préoccupations. Mon nom est Marie-Christine Beauchemin, votre hôte pour ce balado. Le thème d'aujourd'hui, le cancer de la prostate peut-il être héréditaire, est particulièrement intéressant car il met en lumière le rôle de la génétique dans le risque de cancer de la prostate. Comprendre l'aspect héréditaire et génétique de cette maladie peut fournir des informations précieuses aux individus et à leurs familles. C'est pourquoi, sans plus attendre, je souhaite la bienvenue à notre invitée, Dani Tremblay, conseillère en génétique du Centre hospitalier universitaire de Montréal, le CHUM. Alors, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation à participer à ce balado, Dani. Merci.
Bonjour, Marie-Christine. Merci pour cette invitation.
Ça me fait plaisir. On va commencer avec la première question. Qu'est-ce que les gènes et comment fonctionnent-ils?
Oui, donc si on commence avec un cours de génétique 101, pour faire le plus simple, on pourrait se dire que notre ADN, notre matériel génétique, est comme un grand livre de recettes. Chaque gène est comme une recette dans notre grand livre de recettes. Donc un gène, au final, ce que c'est une section d'ADN qui correspond à une recette dans tout notre ADN. Chacune de nos recettes va avoir un rôle à jouer dans notre corps et c'est ce qui permet à notre corps de fonctionner normalement et d'évoluer là, à travers les années grâce à nos gènes.
Qu'est-ce qu'une mutation génétique?
Une mutation génétique, si on reprend notre livre de recettes, c'est comme s'il y avait une erreur dans un de nos gènes ou dans une de nos recettes. Donc, par exemple, si en lisant notre recette ou notre ADN, on arrive sur un mot qui est mal épelé, ou un mot qui manque, ou même un mot qui est présent deux fois, mais à ce moment-là, on n'arrivera pas à lire la recette correctement. C'est la même chose pour notre ADN. Quand notre corps essaie de lire notre ADN, s'il arrive sur une section sur laquelle il manque une partie ou une partie est mal écrite, mais à ce moment-là, il ne peut pas lire notre gène comme il faut et à ce moment-là, ne peut pas fonctionner comme il faut et jouer son rôle comme il est supposé dans notre corps.
Et quelles sont les mutations génétiques courantes associées au cancer, y compris le cancer de la prostate?
Pour les prédispositions génétiques au cancer, les plus connues et les plus courantes sont les mutations génétiques dans les gènes BRCA1 et BRCA2. Si on se concentre plus sur les cancers de la prostate, les plus récentes études nous montrent que les mutations qu'on retrouve les plus fréquemment sont situées dans les gènes BRCA2, ATM et CHEK2.
Une question que l'on reçoit souvent de la part des patients, c'est est-ce que le cancer de la prostate est héréditaire?
La réponse courte, c'est oui, ça peut l'être, mais pas dans la majorité des cas. Si on prend tous les diagnostics de cancer de la prostate, on pense qu'environ 5 à 10 % sont héréditaires. Par contre, si on regarde de façon un peu plus précise, les cancers de la prostate qui sont métastatiques, donc qui se sont propagés à l'extérieur de la prostate, la proportion de ceux-là qui sont héréditaires est autour de 10 à 15. Si d'un autre côté, on regarde les cas de cancer de la prostate qu'on dit localisés, donc qui ne se sont pas propagés à l'extérieur de la prostate, la proportion qui est héréditaire est beaucoup plus faible. On parle de moins de 5 %. Donc, ça dépend de plusieurs facteurs, mais oui, ça peut l'être dans une minorité de cas.
Et comment la génétique contribue-t-elle au développement du cancer de la prostate?
C'est une très bonne question. Donc, si on retourne à notre fameux livre de recettes, donc notre ADN, bien, les gènes dans lesquels il y a des mutations pour les prédispositions héréditaires au cancer, c'est des gènes qu'on appelle suppresseurs de tumeurs. Donc, leur rôle dans notre corps, c'est de nous protéger contre le développement de cancer. S'il y a une mutation génétique ou une erreur dans un de nos gènes suppresseurs de tumeurs, c'est là qu'on va avoir plus de difficultés à se défendre contre le cancer, ce qui fait en sorte qu'on a plus de risques d'avoir un jour certains types de cancers. Et là, quel type de cancer spécifiquement et quelle est la grandeur du risque, ça va dépendre d'exactement où dans notre ADN, c'est-à-dire dans quel gène la mutation génétique est située.
Très bien. Quelles sont les différences entre les mutations héréditaires et les mutations acquises?
Pour les mutations héréditaires, qu'on appelle aussi les mutations germinales, c'est des mutations qui sont présentes partout dans notre corps dès notre naissance. C'est transmis par un de nos parents et à notre tour, on peut l'avoir transmis à un de nos enfants. Pour tester les mutations héritées ou les mutations germinales, ça se fait avec une prise de sang dans laquelle on peut aller lire l'ADN, puis détecter s'il y a des mutations génétiques ou pas. C'est ça qu'on appelle les prédispositions génétiques au cancer et qui peuvent augmenter la probabilité d'avoir un jour certains types de cancers. Si on parle des mutations acquises ou des mutations qu'on dit aussi somatiques, ce sont des mutations génétiques qu'on retrouve uniquement dans les cellules du cancer. Elles ne se retrouvent pas ailleurs dans notre corps. Et elles ne sont pas transmises par nos parents et ne peuvent pas être transmises à nos enfants. La seule façon de pouvoir tester pour des mutations acquises ou mutations somatiques, c'est de faire une biopsie de la prostate et d'aller analyser l'ADN dans l'échantillon de prostate qui est analysé. Pour les mutations qui sont acquises, il n'y a pas de risque d'avoir d'autres types de cancers. C'est vraiment quelque chose qui est propre à la tumeur.
Et lorsqu'on parle de mutations acquises, est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui font que finalement on se retrouve avec une mutation?
Oui, effectivement. Parmi ces facteurs de risque-là, le plus grand est effectivement l'âge. Plus on vieillit, plus on peut acquérir des mutations génétiques sans lien autre que l'âge. Il y a aussi des facteurs externes, environnementaux, soit qu'on contrôle ou qu'on ne contrôle pas, comme par exemple l'exposition à l'alcool ou à la fumée, comme la cigarette. Mais somme toute, là, il y a plusieurs facteurs aussi qu'on ne comprend pas qui font en sorte qu'on peut acquérir des mutations génétiques au niveau de notre vie.
Si on revient aux mutations génétiques héritées, comment se transmettent-elles d'une génération à l'autre et peuvent-elles sauter d'une génération à l'autre?
C'est une question qui revient très souvent avec nos patients. Donc, en fait, tout notre matériel génétique est présent en deux copies. Donc, si on retourne encore une fois à notre livre de recettes, c'est comme si on gardait deux copies de chaque recette. Quand on a une prédisposition génétique au cancer, ça veut dire qu'on a une mutation génétique sur une de nos deux copies d'ADN. Par contre, la deuxième copie, elle est normale. Quand on a des enfants, on va séparer notre matériel génétique en deux. Papa donne la moitié, maman donne la moitié. Donc, si quelqu'un a une prédisposition génétique au cancer, il va donner une de ses deux copies d'ADN. Donc, si quelqu'un a une copie qui est normale et une copie qui a une mutation génétique, il y a une chance sur deux de transmettre la copie qui est normale et une chance sur deux de transmettre la copie qui a une mutation génétique. Ce qui fait en sorte que quelqu'un qui a une prédisposition héréditaire au cancer a une probabilité de 50-50 pour chacun de ses enfants d'avoir transmis ou de ne pas avoir transmis la mutation génétique. Quelqu'un qui a hérité d'une mutation génétique va à son tour avoir une probabilité de 50-50 de le transmettre à ses enfants, et ainsi de suite. Par contre, quelqu'un qui hérite de la copie d'ADN normale, donc celle qui n'a pas la mutation génétique, ne peut pas le transmettre à ses enfants. Quand on n'a pas une mutation génétique, ça ne sautera pas de génération, on ne peut pas la transmettre à notre descendance à notre tour.
C'était vraiment clair comme explication. J'aimerais ça qu'on parle des tests génétiques. Ma première question serait, est-ce que tous les médecins peuvent recommander des tests de génétique?
Oui, tous les médecins peuvent recommander un test génétique. Le plus souvent, ce sont les oncologues ou les urologues qui vont identifier quel patient pourrait bénéficier d'un test génétique
en fonction du type de cancer ou de l'histoire familiale, par exemple, et vont faire une référence à une équipe de génétique dans leur milieu. Donc, n'importe quel médecin qui suit un patient peut faire cette demande de consultation en génétique. Ce ne sont pas tous les hôpitaux qui ont une équipe dédiée à la génétique. Par contre, tous les hôpitaux ont un corridor de service qui est établi avec un hôpital dans leur région qui a un département de génétique. Donc, peu importe l'hôpital où vous êtes soigné, il y a une façon d'avoir accès à un test génétique via votre médecin.
Pourquoi est-il important de subir un test génétique approprié plutôt que de se fier au kit de test génétique disponible sur le web?
C'est quelque chose à laquelle on ne pense pas toujours, mais effectivement, ce qu'on trouve en ligne, même si c'est très attrayant, ce n'est pas équivalent à ce qu'on peut avoir là, via une clinique de génétique. Donc, il y a trois raisons principales pourquoi on ne devrait pas se fier aux tests génétiques qu'on peut trouver en ligne. Premièrement, c'est au niveau de la qualité du test. Donc, quand on fait un test génétique, notre objectif est d'aller regarder tout le gène, donc un peu d'aller lire la recette au complet. Par contre, la plupart des tests génétiques qu'on va retrouver en ligne, accessibles directement, vont regarder seulement certaines parties du gène. Donc, c'est comme si dans notre recette, au lieu de la lire au complet, on regardait seulement certains mots et voir si ces mots-là en particulier étaient bien épelés ou non. C'est sûr qu'en regardant seulement une partie de la recette, on risque de manquer certaines mutations génétiques. Et donc, même si on reçoit un résultat de test négatif, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est allé tout regarder qu'est-ce qu'on devait regarder. Donc, c'est notre première limite. Ces tests-là, souvent, ne sont pas complets. Deuxièmement, ces tests-là sont faits dans des laboratoires qui ne sont pas sujets aux mêmes standards de qualité que les laboratoires qui sont utilisés par les hôpitaux. Donc, quand on fait un test génétique, évidemment, c'est assez complexe au niveau du laboratoire. Il y a certains standards à respecter au niveau de la qualité, du contrôle des échantillons, s'assurer qu'il n'y a pas d'échange, par exemple, entre différents échantillons de sang ou même des échantillons de salive. Alors là, quand on fait un test génétique via un hôpital, on doit suivre certaines certifications très, très précises et qui sont très rigoureuses. Par contre, quand on fait un test génétique sur Internet, on ne sait pas exactement c'est quoi les régulations. On ne peut pas contrôler exactement ce qui se passe avec le spécimen, donc on ne peut pas être complètement certain que le test génétique a été fait dans les règles de l'art. Puis la troisième raison, ce serait au niveau de l'accompagnement autour du test génétique. Donc, le résultat du test d'ADN, c'est juste une partie de la réponse à l'évaluation génétique. Il faut prendre ça en considération avec votre historique personnel, l'historique de votre famille, et donc quand on reçoit un résultat de test génétique, l'idéal, c'est d'être accompagné par un professionnel en génétique. Si on fait un test directement sur Internet et qu'on reçoit le résultat par la poste, est-ce qu'on sait réellement qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pour ma famille, pour mon traitement, pour mon suivi? C'est beaucoup plus complet si on fait une évaluation globale du patient.
Vous avez des questions, des préoccupations, des inquiétudes? Contactez-nous 7 jours sur 7 au 1-855-899-2873. Pour discuter de façon confidentielle avec une de nos infirmières spécialisées en neuro-oncologie qui prendra le temps de vous écouter et de vous fournir des réponses éclairées. L'équipe de soutien Procure est là pour vous.
Quelles sont les limites associées au test génétique pour le cancer de la prostate?
Les deux principales limites qu'on a présentement, bien, premièrement, c'est la connaissance. Donc, on ne connaît pas tout sur notre ADN. On en connaît beaucoup, mais il y a certaines choses qu'on ne sait pas encore. Et donc, il y a potentiellement des gènes, donc des sections d'ADN, qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas qui peuvent augmenter le risque de cancer de la prostate. Donc, évidemment, ce n'est pas inclus dans les tests qu'on fait présentement. On pourrait peut-être manquer quelque chose parce que nos connaissances ne sont pas assez développées. Et deuxièmement, bien, c'est sûr qu'il peut y avoir des limitations techniques. Les tests génétiques, ce n'est pas parfait. Ça semble bien beau dit comme ça, mais ce n'est pas si simple que ça d'aller regarder notre ADN et d'aller l'analyser pour voir s'il y a des mutations génétiques. Donc, quand on regarde l'ADN, on considère qu'on détecte la majorité des anomalies ou des mutations génétiques. Par contre, on sait qu'il y a certaines régions de l'ADN qui sont plus difficiles à aller analyser et que peut-être nos machines de tests d'ADN peuvent manquer.
Comment est-ce que les hommes et leurs familles peuvent-ils prendre des décisions éclairées concernant le test génétique, dans ce cas-ci, pour le cancer de la prostate?
La première étape pour pouvoir prendre une décision éclairée et informée, bien, c'est d'avoir de l'information. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que ça va changer pour moi, ce test génétique-là? Qu'est-ce que ça veut dire si jamais ça revient positif? Qu'est-ce que ça veut dire si c'est négatif? Qu'est-ce que ça veut dire si le résultat génétique est dans une zone grise, un résultat incertain? Parce que les résultats de tes ADN, c'est pas toujours noir ou blanc. Donc, c'est un peu de se projeter dans ce scénario-là et de se dire, bien, qu'est-ce que je vais faire avec cette information-là? Est-ce que je veux vraiment connaître cette information-là? Et est-ce que maintenant est le bon moment pour moi de la connaître? Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on doit prendre en compte avant de pouvoir prendre une décision éclairée. C'est vraiment d'avoir l'information qui vient avec.
Puis, est-ce que le test génétique peut identifier les hommes qui devraient subir un dépistage précoce du cancer de la prostate?
Bien sûr. Puis, c'est notre objectif principal avec les tests génétiques pour les prédispositions au cancer, c'est d'être capable d'identifier qui est à haut risque et qui ne l'est pas pour pouvoir offrir le dépistage aux bonnes personnes au bon moment. On sait que pour le cancer de la prostate, le dépistage précoce, c'est pas la solution pour tout le monde. Avec le test génétique, on arrive à savoir qui pourrait réellement en bénéficier et pour qui ce serait peut-être pas si utile que ça et on pourrait commencer plus tard.
Très bien, on va parler de votre rôle. Alors, quel est le rôle d'un conseiller génétique, justement, pour le cancer?
Oui, c'est une profession qui est très peu connue, mais on peut diviser ce rôle-là en trois catégorie principale. Donc, la première catégorie, ça va être plus d'aller recueillir de l'information. Donc, de poser des questions à nos patients pour savoir quels sont leurs historiques médicales, quelle est l'histoire de leur famille. Donc, est-ce qu'il y a d'autres cas de cancer dans la famille? Combien de personnes dans la famille, des hommes ou des femmes? L'âge au décès, jusqu'à quel âge est-ce que les gens ont vécu? Donc, à partir de toute cette information-là, on fait une évaluation pour déterminer quelle est la probabilité qu'il y ait réellement quelque chose d'héréditaire derrière ça. Et de déterminer qui a besoin ou pas d'un test génétique. La deuxième partie, c'est plus au niveau de donner de l'information. On en parlait tantôt, pour le consentement libre et éclairé, il faut avoir la bonne information. Donc, ça va être le moment pour nous d'expliquer aux patients comment fonctionnent les prédispositions génétiques au cancer, quelle information est importante pour eux, qu'est-ce que ça pourrait changer vraiment là, dans le pratico-pratique, dans leur vie, d'avoir un résultat génétique positif. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour leur famille, parce qu'on parle de maladies génétiques. Donc, ça va être vraiment l'occasion là, de donner de l'information à nos patients. Puis, troisièmement, c'est vraiment un accompagnement au niveau de la prise de décision. On parlait là, que le test génétique, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est fait pour tout le monde. Donc, de se poser la question, comment est-ce que je vais réagir? Comment est-ce que je vais annoncer cette information-là à mes proches? Est-ce que ça pourrait impacter ma perception de moi-même? Donc, c'est toutes des choses que la conseillère ou le conseiller en génétique va aider le patient à naviguer. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là-dedans. C'est vraiment de se poser des questions puis de répondre franchement par rapport à sa situation personnelle.
Avec tout l'accompagnement là, que vous donnez aux patients, est-ce que vous sentez vraiment que vous faites une différence au niveau des impacts émotionnels et psychologiques liés à un résultat de test qui serait positif?
Oui, tout à fait. On le voit avec nos patients que d'être accompagné, ça fait une différence dans leur parcours. Par contre, l'important vient aussi du patient, donc de s'être posé les bonnes questions puis d'être honnête envers soi-même. Donc, on sait que les tests génétiques peuvent nous donner des résultats à haut risque de cancer et c'est vraiment de savoir comment est-ce qu'on va naviguer cette information-là. Parce que sans aucun doute, c'est quelque chose qui peut générer de l'anxiété et du stress. Et en tant que conseiller, conseillère en génétique, on va accompagner nos patients dans ces situations-là et essayer de les orienter vers des ressources plus poussées s'ils en ont besoin, par exemple psychologue ou travailleur social. On va aussi accompagner les patients dans la gestion de la famille et comment annoncer cette information-là. Donc, il n'y a pas de recette miracle, mais on peut aider les gens à savoir comment annoncer cette information-là à leurs enfants puis aux autres membres de la famille, tout en gérant l'impact émotionnel sur eux-mêmes et sur la famille qui est générée avec ces résultats-là. Et on sait que ça peut créer certaines tensions dans certaines familles. Donc, on essaie d'accompagner le mieux qu'on peut chacun de nos patients dans cette démarche.
À partir du moment qu'un patient reçoit un résultat qui est positif, on parle de combien de sessions, de rencontres ou de suivi de la part d'un conseiller en génétique?
Oui, donc quand on annonce un résultat qui est positif, on prévoit toujours une rencontre qui est au minimum 30 minutes, mais qui peut souvent s'extensionner jusqu'à 40-45 minutes. Par contre, ça arrive des fois que les patients ont très peu de questions parce qu'ils ont déjà beaucoup réfléchi avant de faire le test ou par exemple parce qu'ils ont déjà d'autres membres de la famille qui ont fait le test. Donc, quand ils reçoivent leurs résultats, ils ont besoin de moins d'accompagnement de notre part et surtout de se recueillir avec leurs proches. Donc, parfois, ces rencontres-là peuvent durer aussi court que 10 minutes. C'est très variable selon les questions du patient. Puis, une fois que ce rendez-vous-là est fait avec les résultats, on va souvent prévoir un rendez-vous de suivi qui peut être un mois, deux mois ou même jusqu'à 6 mois plus tard pour voir est-ce que les patients ont d'autres questions. Comment ça a été d'annoncer les résultats à la famille? Est-ce qu'on peut faciliter ça d'une façon ou d'une autre? Est-ce que le patient a eu l'occasion d'en reparler avec son oncologue ou son neurologue? Et souvent, une fois que ce deuxième suivi-là est fait, on ne prévoit pas d'autres rencontres avec les patients, avec le département de génétique. Par contre, la plupart des départements de génétique ne ferment pas les dossiers, c'est-à-dire que les patients peuvent nous recontacter à n'importe quel moment pour des questions par rapport à leurs résultats génétiques ou si les membres de leur famille ont des questions. Donc, je peux parler pour ma pratique personnellement au CHUM, mais je crois que c'est la situation pour beaucoup là, de cliniques de conseil génétique où on laisse la porte ouverte toujours là, pour répondre aux questions de nos patients.
Avant de passer à la dernière question, est-ce que vous rencontriez les membres de la famille d'un patient qui a reçu un résultat positif lors d'un test génétique?
Oui. Évidemment, on parle de résultats de test génétique. Donc, si on trouve quelqu'un qui est porteur d'une mutation, bien, ça veut dire qu'il y a probablement d'autres membres de la famille qui sont porteurs également. Donc, on laisse vraiment la chance à chaque personne de prendre la décision de venir nous consulter ou pas. Donc, les membres de la famille vont recevoir l'information pour savoir comment prendre un rendez-vous et on va les rencontrer s'ils le veulent. Par contre, ça reste vraiment une décision personnelle et en aucun moment, ça va être obligatoire pour d'autres membres de la famille de venir nous consulter. C'est vraiment à chacun de prendre sa propre décision et de faire le rendez-vous au moment où il se sent prêt.
Alors, voici la dernière question. Quels conseils donneriez-vous aux hommes en général ayant des antécédents de cancer dans leur famille?
Je vous dirais de ne pas hésiter à poser des questions à votre médecin. Que ce soit votre médecin de famille, votre oncologue, votre urologue, demandez-lui, avec mon historique personnel et mon historique familial, est-ce que je suis dans les critères pour avoir un test génétique? Si vous n'êtes pas dans les critères, ça veut dire qu'on est assez rassuré et que vous n'êtes pas dans les catégories à haut risque. Et si jamais vous êtes dans les critères, bien, vous allez pouvoir avoir certaines réponses à vos questions avec un test génétique ou du moins une consultation en génétique.
Dany Tremblay, merci beaucoup d'avoir partagé ces informations éclairantes avec nous. Cela conclut le balado d'aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui écoutent, merci de nous avoir accompagnés. J'espère que ce balado a répondu à certaines de vos questions ou préoccupations. Alors, merci à tous et à la prochaine. Ici Marie-Christine Beauchemin pour le cancer de la prostate, sans tabou. Merci infiniment, Dany.
Merci.
Merci d'avoir écouté Cancer de la prostate sans tabou, un balado produit par Procure. Pour en savoir plus sur le cancer de la prostate et nos épisodes de balado-diffusion, rendez-vous sur procure.ca.